Dans Genèse 2, verset 7, nous apprenons que Dieu forma l'homme à partir de la poussière du sol. Et Genèse 3, verset 19, nous rappelle « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Finalement, Ecclésiaste 3, 20 ajoute « Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. » Pourquoi Dieu insiste-t-il autant sur cet aspect de notre composition? Que veut-il nous enseigner en nous rappelant que, en tant qu'être humain créé à son image, nous sommes fondamentalement de la poussière? Job a demandé à Dieu de garder cela à l'esprit. Si vous le voulez bien, reportons-nous au livre de Job. Job, chapitre 10. Job 10 et le verset 9 nous dit la chose suivante. Job 10, verset 9. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Job essaya de comprendre pourquoi il était confronté à ces épreuves, les unes après les autres. Quelle était la raison pour laquelle elle lui était infligée? Parfois, nous vivons des situations difficiles, peut-être pas à la hauteur de celles que vécut Job, cependant, elles restent des épreuves. Job avait compris quelque chose d'essentiel, que nous ferions bien de retenir. Il avait compris qu'il était comme de l'argile entre les mains de son Créateur. Il a même rappelé cette vérité fondamentale à Dieu pour implorer sa miséricorde. Aujourd'hui, nous allons explorer la signification spirituelle d'être de l'argile entre les mains de Dieu. Discutons de ce que signifie être de l'argile. Le titre du sermon est « Ce que signifie être de l'argile ». Ce que signifie être de l'argile. Vous vous souvenez peut-être de la vieille chanson de John Denver, « The Potter's Wheel ». Il chante « Mais je ne vais pas le faire ». « Prends un peu d'argile, mets-la sur un tour. Tu comprendras un peu de ce que Dieu doit ressentir. Fais-la tourner un peu, écoute-la tourner. Façonne-la comme tu le souhaites. » Dieu demanda au prophète Jérémie d'aller observer un potier au travail. Reportons-nous à Jérémie, chapitre 18. Jérémie 18, versets 1 à 3. Jérémie 18, versets 1 à 3. Il est écrit, « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. » Pour comprendre le fonctionnement d'un tour et de la poterie, il faut savoir que l'argile est jetée contre le tour. Elle adhère, mais ce n'est que le début. Tout un processus se déroule ensuite. Verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? » dit l'Éternel. « Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » J'aimerais maintenant vous présenter sept étapes que traverse l'argile sur le plan physique et faire l'analogie sur le plan spirituel afin de mieux comprendre ce que signifie être de l'argile entre les mains du maître potier. Nous examinerons ensuite trois qualités propres à l'argile. Ces sept Ces étapes nous montrent comment Dieu développe son caractère chez ceux qui l'appellent et à qui il transmet son caractère au cours d'une vie de dépassement et de croissance. Première étape, le potier choisit le type d'argile à utiliser. Cela dépend de ce que le potier va fabriquer. Il y a des avantages à utiliser certains types d'argile pour certaines pièces. Maintenant, spirituellement parlant, nous sommes de l'argile. C'est ainsi que j'aimerais que nous pensions pendant le reste du sermon. Nous sommes une masse d'argile. Vous êtes de l'argile. Vous savez, Dieu le Père nous appelle, comme nous le comprenons de Jean 6, 44 et Jean 6, 65, il le dit clairement, il nous attire à lui. Il veut une relation avec nous. Je me demande comment ma vie aurait été différente sans la Bible. À quel point votre vie serait différente si vous n'aviez pas rencontré la parole de Dieu? Et nous devenons les bénéficiaires de promesses, de principes et d'une puissance qui ne sont accessibles que par la parole de Dieu. Le potier laisse l'argile vieillir et macérer jusqu'à ce qu'elle pue, comme dirait un potier. Ce n'est qu'alors qu'elle est prête à être utilisée. Laisser l'argile reposer dans un récipient humide pendant des mois la fait mûrir. L'argile mûrit à mesure que l'humidité commence à s'infiltrer, créant un effet de liaison. De la même manière, vous et moi devons prendre conscience de la véritable nature de nos péchés, à savoir qu'ils sentent mauvais. Avez-vous déjà envisagé vos péchés sous cet angle? C'est ainsi que le maître potier les voit. Et lorsque nous commençons à les voir comme lui, alors seulement nous pouvons vraiment progresser dans notre conversion. Ésaïe 64. Ésaïe 64. Nous lisons au verset 5. Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Puis il dit au verset 6, « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » Et Israël était tombé dans l'iniquité. Deux péchés principaux, pourrait-on dire, la violation du sabbat et l'idolâtrie. Et nous dirions que rien n'a vraiment changé. Ces mêmes péchés affectent aujourd'hui le peuple de Dieu, l'Israël spirituel. Verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Frères et sœurs, nous devons en venir à nous voir nous-mêmes. Nous devons voir certaines choses qui, dirons-nous, ne sont pas les plus agréables à regarder. Nous traversons les jours des pains sans levain et nous sommes invités à nous concentrer, bien sûr, sur certaines facettes de notre vie. Il est facile de faire quelque chose de bien et d'avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Mais ce serait manquer le but, n'est-ce pas? Dans Job 32, verset 1, il nous est dit, Job 32, verset 1, et je paraphrase, Job était juste à ses propres yeux. Il pensait qu'il se débrouillait plutôt bien, mais Dieu voulait que Job reconnaisse quelque chose. Il voulait que Job reconnaisse qu'il n'était pas Dieu. Il n'était pas le potier. À quelle norme nous mesurons-nous? Aux autres? à nos propres résultats? Parfois, nous pouvons regarder nos réalisations passées et peut-être même en faire une idole. Ou bien considérons-nous la Bible comme l'autorité suprême dans notre vie? À quel code moral adhérons-nous vraiment? La sermonnette a abordé une partie de ce code moral, ainsi que les avantages et les bénédictions qui découlent de suivre la voie de Dieu. Le code moral de Dieu est révélé dans les Écritures. Avez-vous fait de la parole de Dieu, la Bible, l'autorité morale absolue dans votre vie? En appliquant ses principes et en obéissant à ses commandements chaque jour? Personne n'est parfait, nous le comprenons. Mais j'espère que nous nous efforçons tous de faire mieux. Nous nous réveillons le matin et tel est notre objectif. Comment plaire à notre Père? Comment faire sa volonté? Dans Matthieu 9, verset 13, le Christ déclare, Matthieu 9, verset 13, « Car je ne suis pas venu appeler les justes, ou plutôt les prétendument justes, mais des pécheurs à la repentance. » Ceux qui voient vraiment que leurs péchés sentent mauvais, qu'ils ont peut-être tout gâché. Je pense que c'est là où nous en sommes, après 6000 ans sous l'influence de Satan, le diable, les gens peuvent gâcher leur vie. Ils traversent la vie sans enthousiasme, sans but. Et je pense que c'est l'une des plus grandes questions que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. C'est pourquoi ils demandent les brochures, c'est pourquoi ils regardent les émissions télévisées, lisent la revue. Ils veulent connaître le sens de la vie. Quel est le but de tout cela? Cela ressemble à une course effrénée, cela ressemble à une cage dans laquelle ils courent sans fin. Pourquoi suis-je ici? Un pêcheur dans cette vie est quelqu'un qui comprend sa propre nature, la nature humaine. Et ils savent qu'ils ont besoin d'aide. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide et qu'ils n'ont pas cette force en eux-mêmes. Nos péchés empestent. Ils sont une puanteur dans les narines de Dieu. Quand Dieu sent cette puanteur, et que vous commencez à la sentir aussi, alors il peut y avoir un réel progrès. Et donc, frères et sœurs, quelle odeur ont vos péchés pour vous? Sachez-le, je me pose la question moi-même. Troisième étape. Le potier façonne, malaxe, bat, piétine ou frappe l'argile. Cela s'appelle généralement le malaxage. Or, les Écritures parlent du potier qui foule l'argile. Ésaïe 41, verset 25, Ésaïe 41, verset 25 nous le dit. Et pourquoi fait-il cela? Pour éliminer les grumeaux, les bulles d'air, afin de rendre l'argile plus malléable. Tout comme le levain fait gonfler toute la pâte, notre orgueil nous fait gonfler. Et lorsque nous sommes dans cet état d'esprit, Dieu doit nous rabattre pour éliminer notre orgueil. Cela nous prépare à une véritable croissance. Si nous cessons de penser que nous sommes de l'argile, spirituellement parlant, nous ne sommes que de la poussière mélangée avec un peu d'eau. Vous savez, cette matière première avec laquelle Dieu travaille, alors notre perspective change. S'il n'y a que deux options, l'argile ou le potier, alors nous devons nous rappeler qui nous sommes. Frères et sœurs, nous sommes l'argile. Dieu doit nous rendre humbles pour nous préparer à une véritable croissance, comme le maître potier a parfois besoin de nous secouer et de nous humilier. Avez-vous compris ce qu'il cherchait à accomplir dans votre vie? Regardez-vous à cela sous cet angle. Quatrième étape. Le potier commence à façonner ou à former l'argile. Tout au long du processus, il est nécessaire d'ajouter de l'eau pour que l'argile reste malléable. Si vous avez déjà vu des enfants jouer avec de l'argile, ils la travaillent souvent longuement avec leurs mains. Et ils la travaillent trop. Les pores de nos mains absorbent l'eau de l'argile, qui devient alors friable. Elle commence à se désagréger. Je pense que nous pouvons voir un parallèle avec cela. Si nous mettons trop les mains dans les choses, nous pouvons tout gâcher. Le potier doit ajouter de l'eau avec beaucoup de soin. Et bien sûr, lorsque l'argile est jetée sur le tour, pour qu'elle soit humidifiée et commencer à prendre forme, elle doit être centrée. Vous ne pouvez pas fabriquer un récipient si vous ne l'avez pas centré correctement. Pourquoi Israël a-t-il été abîmé entre les mains du potier? Était-ce la faute du potier? Ou n'était-il pas centré? Pour nous chrétiens, le Christ est notre centre. C'est en plaçant le mode de vie de Dieu au centre de notre être que nous restons centrés et que Dieu peut continuer à nous façonner. Si nous nous décentrons, si nous commençons à donner la priorité à d'autres choses, nous serons déformés. Et il est difficile d'être refait. David s'exclama et il demanda à Dieu de lui donner un cœur pur. Eh bien, cela a un prix. Dieu ajoute son Saint-Esprit, l'eau vive, pour nous garder malléables et pour nous donner la force de conserver notre forme. Pour conserver notre forme. Investissez-vous suffisamment d'énergie et de foi pour maintenir la forme que Dieu est en train de façonner dans votre vie? Investissez-vous suffisamment d'énergie et de foi pour maintenir la forme que Dieu est en train de façonner dans votre vie? Cinquième étape. Une fois façonné, l'argile est placée dans un four. Elle est cuite à haute température, jusqu'à maturation. Pour la poterie en grès, la température peut atteindre 2400 degrés Fahrenheit, soit 1315 degrés Celsius. Pour les autres récipients en argile, elle peut être d'environ 1730 degrés Fahrenheit, soit 943 degrés Celsius. C'est le point de non-retour, où l'argile se transforme en céramique résistante. La première cuisson est appelée biscuit. Elle permet de fixer ou de durcir le récipient dans la forme souhaitée. À ce stade, la pièce n'est plus soluble dans l'eau. Elle a sa forme de base. Elle va tenir et conserver sa forme. Notre première grande épreuve détermine notre caractère pour les épreuves suivantes. Comprenez-vous que Dieu vous enseigne à travers les épreuves que vous traversez? C'est vraiment une question de relation. La relation que vous avez avec votre Père. Sixième étape. Après la cuisson, l'argile est décorée. Elle sera cuite plusieurs fois jusqu'à ce que la décoration finale soit ajoutée. La dernière cuisson est appelée cuisson de glaçage. C'est l'étape la plus chaude et la plus intense. La décoration finale peut inclure de l'or, de l'argent, d'autres métaux précieux et des motifs artistiques. Et qu'est-ce que cela signifie? Des épreuves et encore plus d'épreuves. Mais le résultat est que Dieu affine notre caractère et nous devenons de plus en plus complets, plus parfaits, plus semblables à notre Père et à Jésus-Christ. Septième étape. Enfin, le potier est prêt à juger son œuvre. Si le modèle en argile n'a pas craqué, explosé ou a été abîmé d'une manière ou d'une autre pendant les cuissons, il est prêt à être utilisé par le concepteur et créateur de la manière qu'il le décidera. De même, Dieu nous évalue actuellement, et il décidera finalement de notre récompense lors de la résurrection, lorsqu'il examinera nos œuvres à la lumière de sa parole. Vous jugez-vous quotidiennement en vue de ce moment? Nous comprenons dans 1 Corinthiens 11, où il nous est dit de nous juger nous-mêmes. En gardant à l'esprit ces étapes cruciales, que signifie être l'argile entre les mains du maître potier? Que signifie être de l'argile? J'aimerais discuter trois qualités de l'argile. Quelle perspicacité spirituelle pouvons-nous tirer de l'étude des attributs physiques de l'argile? Première qualité. L'argile est malléable. Elle écoute. L'argile est malléable, elle écoute. Même au sens physique, l'argile peut être étirée, extrudée, allongée, roulée, aplatie. Vous voyez où je veux en venir. L'argile fait tout ce que le potier veut. Elle réagit lorsqu'on la tire dans une direction ou une autre. Elle ne résiste pas aux mains du potier. Dans le sens spirituel, frères et sœurs, que signifie pour nous être malléables? Eh bien, cela signifie que nous sommes prêts à céder. Cela signifie que nous écouterons Dieu. Nous serons de l'argile qui écoute. Dan Less est un potier roumain, et il cite dans Our Daily Bread Devotional où il dit que l'argile doit être exposée à la pluie pendant un an, gelée et dégelée, afin que vous puissiez la modeler et sentir à travers vos mains qu'elle vous écoute. De nombreux potiers expérimentés personnifient l'argile de cette manière. Elle écoute. On dit que l'argile vieillie, patinée ou bien malaxée écoute car elle réagit de manière prévisible au tour ou à la main qui la façonne. Cela fait partie de notre approche spirituelle. Réagissons-nous de manière prévisible? Lorsque Dieu nous façonne ou nous forme, nous soumettons-nous facilement, sans craquer, sans résister, sans nous effondrer? Avez-vous déjà eu envie de vous fissurer, de résister ou de vous effondrer? Je ne peux parler que pour moi-même, mais oui, cela m'est arrivé. Heureusement, Dieu est miséricordieux. Il nous ramène là où nous devons être. Et peut-être l'a-t-il fait une fois ou deux pour vous aussi. L'argile qui écoute communique avec le potier par le biais d'un retour tactile. Cela permet d'ajuster et de corriger naturellement le travail. Vous voyez, l'argile écoute. L'argile fait ce que le potier lui demande de faire. C'est cela, l'argile qui écoute. Et pour nous, le parallèle est puissant. L'argile qui écoute se caractérise par sa maturité, sa réactivité et sa souplesse. Des qualités que nous aspirons tous à atteindre, je pense. Dans Jacques, c'est toujours la même chose. On pense qu'on peut avoir des versets préférés. Mais c'est difficile d'avoir un verset préféré. Peut-être que cela change d'une année à l'autre ou d'une situation à l'autre. On peut dire, je médite vraiment sur ce passage en particulier. Mais nous pouvons avoir des livres préférés dans la Bible. et je pense que Jacques occupe souvent cette place pour moi. Je trouve dans l'épître de Jacques des pépites de sagesse et d'aide incroyables et précieuses. Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Vous savez, cela peut être courtois, accessible, facile à convaincre, conciliante, pleine de miséricorde. C'est la sagesse de Dieu, pleine de miséricorde. Quand je suis entré dans le ministère, on m'a dit, si tu dois te tromper, trompe-toi du côté de la miséricorde. Et je suis reconnaissant qu'on m'ait dit cela dès le début. Cela m'a guidé dans un certain nombre de réactions face à des circonstances au fil des ans. Verset 17. Pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité. Vous savez, cela a à voir avec la reconnaissance faciale. Vous pensez, oh, c'est une technologie, la reconnaissance faciale. Je sais que certains peuvent regarder directement leur webcam et que leur ordinateur s'allume. Mais ici, c'est un autre type de reconnaissance faciale. C'est quand vous voyez quelqu'un et que vous le traitez différemment d'une autre personne. Nous pouvons tous être victimes de cela. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'avoir la sagesse de respecter les autres sans accorder plus d'importance que nécessaire à ce respect. Honorer ceux qui le méritent, honorer doublement pour certains, nous comprenons cela, c'est aussi dans la Bible, mais d'une manière générale, être sans hypocrisie, au verset 17 nous dit aussi. Devons être nous-mêmes, en public comme en privé. Nous devons être les mêmes. Verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors, êtes-vous pour la paix? Êtes-vous prêt à céder? L'apôtre Paul dit aux frères à Rome, dans Romains 6, verset 13, soumettez-vous à Dieu. Au milieu des pressions de la société dans laquelle il vivait, il devait se soumettre à Dieu. Dans la société dans laquelle nous vivons, ces pressions deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus intenses à mesure que nous avançons. Quelles sont les caractéristiques qui composent une attitude de soumission? Être malléable signifie être humble et disposé à apprendre. Dans Luc 14, verset 7. Nous avons des principes tirés de la parole de Dieu que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. Nous devrions les appliquer, nous devrions les garder à l'esprit. Je me souviens que M. Meredith a dit à plusieurs reprises, « Reliez tout à la Bible. » J'ai apprécié cela. Cela m'a aidé. Vous commencez à comparer, et votre vie devient alors très dynamique, car vous vous demandez, « Que se passe-t-il dans ma vie? Qui d'autre a vécu quelque chose de similaire dans les Écritures? Comment puis-je m'identifier à cela? Quelles leçons puis-je en tirer? Quels principes puis-je commencer à appliquer dans cette situation? » Luc 14, verset 7. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, « Cède la place à cette personne-là. » Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, « Mon ami, monte plus haut. » Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Quel principe puissant! Ce sont des défis, je pense, surtout pour les jeunes, mais aussi pour tout le monde dans une certaine mesure. Une ambition légitime est une bonne chose, mais il existe une ambition qui peut entraver notre progression spirituelle. Nous devons apprendre à la moduler un peu. Et nous devons nous humilier, ralentir les choses, attendre Dieu. Mais en même temps, nous devons nous pousser à devenir ce que le potier est en train de façonner et reconnaître cela. Voilà le défi. Galates 6, verset 3, nous pouvons nous reporter là, s'il vous plaît, Galates 6. D'une certaine manière, nos vies nous sont révélées dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez les choses ainsi. Dieu nous a déjà dit qui nous sommes dans les pages de ce livre. J'y pense toujours quand je lis le livre des Proverbes. Et si je réfléchis bien, parfois il est écrit « Le sage fait ceci ». Et je me dis « Oh, j'ai fait ça, super, c'est un bon indicateur ». Et puis parfois il est écrit « L'insensé fait cela ». Et je me dis « Oh, cela fait mal, ça fait mal ». Nous utilisons la parole de Dieu pour nous corriger. Dieu nous montre ces choses très clairement. Dans Galates 6, verset 3, Paul écrit « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » Vous réveillez-vous le matin en pensant « Eh bien, il est possible que je me séduise aujourd'hui. » Mais si vous ne priez pas pour être protégé contre cela, est-ce possible? Parfois, nous devons nous réveiller et dire, « Père, empêche-moi de me leurrer moi-même. Aide-moi à garder les yeux fixés sur le royaume. Aide-moi à faire de la vérité et de la justice mon objectif pour aujourd'hui. » C'est l'humilité à laquelle nous devons aspirer. Encore une fois, nous voyons ces principes qui ne font que renforcer ce que signifie être l'argile. Comment Dieu veut que nous fonctionnions? Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne laissez pas le monde être le potier. Ne laissez pas le monde façonner votre cœur, votre esprit, vos principes, vos valeurs. Verset 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Soyez sérieux dans vos pensées, sérieux dans votre approche. Vous pouvez le voir dans plusieurs passages. Vous pouvez les consulter, mais dans 1 Timothée 3 et dans Tite 1, il est question de la révérence comme qualité requise pour, dirons-nous, le ministère. Ce mot révérence est semnos, et il a à voir avec le sérieux de ses intentions, le fait d'être digne de respect. Nous devons donc penser avec sobriété et être sérieux dans notre approche de ce que Dieu fait dans notre vie. Prenez cela très au sérieux. Verset 3. Selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Ainsi, nous pouvons grandir dans cette foi, et c'est certainement le cas. Chaque fois que nous traversons une épreuve et que nous voyons Dieu agir de la sorte et nous en sortir, nous en tirons des leçons. Nous reconnaissons que notre Père est là, il nous guide, il nous conduit, il nous aide, il pourvoit à nos besoins. Et je pense que la leçon fondamentale à en tirer est que nous pouvons lui faire confiance. nous pouvons lui faire confiance. Nous avons tous eu des enseignants. Et nous devons respecter ceux qui nous ont enseignés. Et il faut de l'humilité pour admettre que nous avons besoin d'enseignants pour nous instruire. Certains ont du mal à l'accepter, ils ne veulent pas qu'on leur enseigne. Ils veulent être ceux qui enseignent, mais parfois, ils n'ont pas encore assez appris pour être dans cette situation. La semaine dernière, M. Tyler a parlé de la nécessité de devenir des enseignants enseignables. C'est l'une des premières étapes pour vraiment comprendre la doctrine, devenir enseignable. Nous devons nous souvenir et prier pour ceux qui nous ont enseigné la vérité, bien sûr, M. Armstrong, M. Meredith, M. Weston et bien d'autres. Et nous regardons leur exemple et nous reconnaissons, nous pensons aux épreuves qu'ils ont traversées, pensez aux défis. Quand on traverse ces épreuves année après année, l'effet cumulatif est vraiment admirable. Je sais que M. Weston a récemment écrit, je crois que c'était dans le journal, sur le fait d'être préservé dans la vérité. Et nous en sommes reconnaissants. Aucun d'entre nous ne sait ce que nous réserve l'avenir. Nous comptons tous sur Dieu pour nous montrer la voie et nous guider pas à pas. Mais si nous avons la bonne attitude, si nous reconnaissons que nous sommes l'argile, alors nous serons prêts. Nous serons capables d'y faire face, car nous y ferons face un jour à la fois, et nous y ferons face avec le courage qui vient de la confiance en Dieu. Dans 1 Pierre 5, verset 5, nous lisons 1 Pierre 5, verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il accorde sa faveur. Il accorde cette miséricorde dont nous avons tant besoin, la grâce de Dieu. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et puis nous recevons cet avertissement très puissant, « Soyez prudents, nous avons un adversaire. » Et si nous devenons de l'argile qui n'écoute pas, de l'argile qui ne se permet pas de changer et de croître chaque jour à petits pas, alors nous pouvons nous égarer. Et c'est la réalité. Nos étudiants de l'éducation vivante ont une opportunité devant eux. De donner l'exemple, aller de l'avant, se soumettre à leurs aînés lorsqu'on leur demande de faire quelque chose, que ce soit à la maison ou dans leur congrégation locale, le faire avec la bonne attitude et reconnaître qu'ils plaisent ainsi à Dieu. Et qu'il y a une récompense à cela. L'attitude du Christ, qui n'est pas venu pour faire sa propre volonté, mais qui a accepté de souffrir pour la volonté de Dieu, plutôt que d'imposer la sienne, est l'exemple ultime de se soumettre. Nous voulons nous souvenir de ce que le Christ a enduré. Parfois, nous n'y pensons que pendant la période de la Pâque. Je pense toujours à Paul, et il dit, « Je porte en mon corps les stigmates du Seigneur Jésus. » Cela a tempéré ses pensées. Il était prudent. Il faisait attention à ses pas. Surmonter son ego est une étape importante avant le baptême. Et je dirais même que cela reste aussi une priorité de nombreuses années après. Surmonter notre propre volonté est essentiel pour être et rester malléable entre les mains du maître potier. Prenez le temps chaque jour de vous arrêter, de méditer et de vraiment écouter Dieu. trouver simplement un moment de calme, où que vous soyez. L'Esprit de Dieu coule comme l'eau, et lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu à travers l'étude de la Bible, nous recevons des révélations et une inspiration qui ne sont possibles d'aucune autre manière. Alors ralentissez et prenez le temps de vraiment écouter. Dans ma propre vie, j'ai connu des moments où j'ai dû apprendre à être plus flexible et plus ouvert à la gouverne de Dieu, tout comme l'argile entre les mains d'un potier. La résistance à être modelée génère des frictions qui peuvent compromettre le processus. Nous devons être comme de l'argile qui écoute. Nous devons écouter Dieu, et cela implique de faire confiance à Dieu, et notre confiance vient de la foi, d'une croyance vivante et active en lui et en sa parole. Et si nous croyons en Dieu, nous ferons ce qu'il nous dit. Nous ne nous y opposerons pas, car nous comprendrons qu'il est toujours dans notre intérêt d'écouter et d'agir. Encore une fois, Dieu est digne de confiance, et nous devons savoir que nous sommes entre des mains aimantes lorsqu'il nous façonne. Vous savez, l'intention de Dieu n'était pas tout bonnement de réduire Job à la poussière. Est-ce que vous mettez quelqu'un dans un mortier avec un pilon, un petit bol, et vous le réduisez en poudre? Est-ce cela que fait Dieu? Ou bien dit-il, « J'ai besoin que tu vois quelque chose. C'est essentiel pour que tu réussisses et que tu sois là pour que nous puissions célébrer et partager ce moment merveilleux dans le futur. » Ainsi, la première qualité de l'argile est qu'elle est malléable. Elle écoute. Deuxième qualité, l'argile résiste sous la pression. Elle se maintient. L'argile résiste à la pression. Elle se maintient. Et en parlant d'argile physique a une qualité plastique. Il existe un livre intitulé « L'argile et les glaçures pour le potier » de Rhodes. C'est un livre assez ancien, mais il contient des citations très intéressantes. Il date de 1973. Et à la page 10, l'auteur écrit « L'argile, lorsqu'elle est humidifiée, avec la quantité d'eau appropriée, a tendance à conserver la forme qui lui est donnée. » Cette propriété est connue sous le nom de plasticité, et c'est l'une des principales qualités de ce matériau. Fin de la citation. Philippiens, chapitre 3. Une qualité plastique, se maintenir, conserver sa forme, rester fidèle à la forme souhaitée. Philippiens 3, versets 13 à 15. Philippiens 3, verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits. Quel genre d'argile êtes-vous? Quel genre d'argile? Êtes-vous une argile qui écoute? Verset 15. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Alors que nous nous préparons au baptême, nous relisons Luc 14. Prenez votre croix. Cet instrument de mort, suivez le Christ. Mais certains ne persévèrent pas, ils ne tiennent pas bon, ils changent de forme. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte, Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Dieu nous conduit à un certain niveau et nous l'atteignons, mais nous ne devons pas régresser. Autrement dit, nous avons besoin de résilience pour ne pas reculer. Ne pas reculer. Nous devons garder notre forme et notre apparence, avoir la plasticité de l'argile, qui est l'une de ses principales vertus. Ne pas nous affaler, ne pas nous avachir ou ne pas oublier les leçons que Dieu nous a enseignées tout au long de notre vie. Ne pas oublier la croissance que nous avons accomplie et celle qui nous attend encore. Et nous devons oublier ce qui nous freinait, les échecs du passé, et aller de l'avant. Vous savez, les erreurs, cela arrive. Je ne connais personne qui n'ait jamais commis d'erreur. Les erreurs arrivent. Cela fait partie du processus, mais nous devons tirer les leçons de ces erreurs. Nous devons croître. Paul nous dit ici de persévérer, au verset 14. Il dit « Je cours vers le but ». Il y a donc une motivation. Il y a une motivation à persévérer. Et nous devons voir clairement ce prix pour y parvenir. Tout comme l'argile est malaxée, nous subissons un traitement similaire qui nous pousse à prendre la forme et la structure appropriées. Dieu veut que nous conservions cette forme. Il faut une intensité, un désir profond et une conviction pour ne pas s'effondrer sous la pression. Nous devons rechercher Dieu dans ces moments-là. Il y a des pressions intérieures. Vous savez, provenant de désirs tentants, mais mauvais. M. Winnell l'a déjà dit, n'agissez pas selon toutes les pensées qui vous traversent l'esprit. C'est un bon conseil. Il y a les pressions de notre entourage, les pressions du compromis, et la pression de se conformer à toute la société qui nous entoure. Une société vraiment laodicéenne. Nous ne voulons pas nous laisser endormir. Nous ne voulons pas atteindre un plateau et dire « Oui, c'est plutôt confortable ici, je me sens bien. Je connais bien cette sensation, cette situation. Eh bien, Dieu n'a pas encore fini. Il y a encore d'autres cuissons à venir. » Et ce sont toutes sortes de pressions de la vie quotidienne auxquelles nous sommes confrontés dans notre combat pour vaincre notre nature humaine, Satan et la société. Nous voyons cette idée dans le livre aux Hébreux. C'est intéressant quand on regarde le chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 32. Hébreux 10, verset 32. C'est l'apôtre Paul qui écrit et il dit ici, verset 32, souvenez-vous de ces premiers jours, où après avoir été éclairé, au verset 32, la référence dans la colonne centrale de ma Bible dit illuminé. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Ils ont dû endurer des moments difficiles, des tribulations, car ils amassaient des trésors dans le ciel. Verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance. La foi que vous avez en Dieu, la confiance que vous avez en votre Père, qu'il agira toujours dans votre intérêt. Et ne rejetez pas votre patience. Je trouve moi-même que la patience est une qualité assez difficile à atteindre. Je dois m'efforcer de la trouver en moi et de me tourner vers la parole de Dieu pour la renouveler. Et vous pourrez alors aller de l'avant. Parfois, nous devons nous aligner sur la pensée de Dieu, sur le plan de Dieu, sur ce que Dieu nous montre. sur ce à travers quoi il nous guide. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, il ne va pas tarder, il ne va pas entendre. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Sommes-nous alignés sur le dessein de Dieu? Sommes-nous centrés? Vous savez, être justifié, c'est d'être aligné sur Dieu. Nous ne sommes pas décentrés. Dieu est vraiment le centre de notre existence. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Soit dit en passant, nous vivrons éternellement par la foi. Mais s'il se retire, vous savez, régresser en retombant dans ses péchés passés, dans ses vieilles habitudes, cela change la nature de l'argile quand cela arrive. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et puis, nous recevons cet encouragement. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Très positif. Très positif. Nous pouvons aller de l'avant. Vous savez, ceux que Dieu appelle endureront des épreuves après leur baptême et après avoir reçu le Saint-Esprit. Et c'est ici appelé à être illuminé ou éclairé, à voir la lumière de la vérité dans leur esprit et dans leur cœur. Alors que nous poursuivons notre vie chrétienne, nous avons besoin de persévérance, celle qui n'est possible qu'avec l'aide de Dieu, grâce à la puissance de son Saint-Esprit. L'unité de l'argile lui permet de conserver sa forme. L'humidité s'y imprègne, créant un effet de liaison. Les minéraux et les métaux se lient entre eux avec l'eau. Il en va de même pour nous. Nos vies chrétiennes sont liées entre elles par des valeurs, des principes et un code de conduite. Et bien sûr, par la présence en nous du Saint-Esprit de Dieu. David dit dans Psaume 86, verset 11, Psaume 86, verset 11, « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Encore une fois, cela fait référence à la sagesse qui vient de Dieu. Ce n'est pas l'hypocrisie. Ce n'est pas une duplicité. « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Vous savez, s'il y a des zones endurcies dans notre cœur, comme des fleuves d'eau vive qui coulent en nous et hors de nous, l'Esprit de Dieu peut vaincre ces zones d'endurcissement et ne peut nous rendre capables de rester fermes sans nous effondrer. L'ancien Israël luttait contre un cœur endurci. Est-ce parfois notre cas? Je me pose les mêmes questions. Nous avons les mêmes tendances, et donc les avertissements qui leur étaient destinés nous sont également destinés. Et grâce à la présence du Saint-Esprit de Dieu en nous, nous avons une unité intérieure. Une paix intérieure, c'est là un aspect du fruit de l'Esprit de Dieu, la paix. Nous voulons plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous ne voulons pas être indécis. Vous savez, nous ne sommes pas à cheval entre deux mondes, avec un pied dans le monde et un pied dans l'Église. M. Stafford disait il y a quelques années, « La clôture est le territoire de Satan », et c'est vrai. C'est le moyen le plus rapide d'être déchiré, de perdre sa forme, de s'écraser sous la pression. Il y a un grand danger à devenir indifférent au péché, à faire des compromis, à tomber dans la négativité ou de négliger l'appel saint de Dieu, à laisser les soucis de cette vie prendre le pas sur notre relation avec Dieu. Vous pouvez vous reporter à 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Et j'aimerais le lire dans une autre traduction du Nouveau Testament, et qu'il dit ceci, verset 7. Un tel trésor, vous savez, le Saint-Esprit, est en effet le nôtre, mais nous le portons dans ce qui n'est que des vases d'argile, afin de montrer que la puissance qui dépasse tout le reste est celle de Dieu, et elle ne nous appartient pas. M. Smith vient de faire un balado sur la question de savoir si nous nous appartenons. Non, pas du tout. Nous appartenons à Dieu. Et il est si facile de se laisser entraîner par l'inertie de la vie. et nous vivons cette vie avec un vent contraire. Satan et ce monde vont dans une autre direction. Et nous devons donc lutter contre cette force. Nous devons nous pousser vers l'avant par la prière, l'étude de la Bible, le jeûne, la méditation. Nous ne voulons pas nous laisser dissuader de faire ces choses ou trouver des excuses pour ne pas avoir le temps. Sinon, comment pourrons-nous vraiment écouter Dieu? Sinon, comment pourrions-nous rester fermes, garder la forme? Nous ne devons pas négliger notre vocation, et cela peut se faire de nombreuses façons différentes, par simple paresse ou par lâcheté. Ne recherchez que ce qui nous réconforte est de la lâcheté morale ou de la peur. Nous ne voulons pas reculer. Nous devons aller de l'avant. Nous devons nous donner davantage lorsque nous ressentons ce poids qui ralentit notre course spirituelle. La deuxième qualité est donc que l'argile résiste à la pression, elle se maintient. Nous devons faire ce qui nous aide à tenir bon. Troisième qualité, dernière qualité, l'argile peut entrer dans le feu et en ressortir plus forte. L'argile peut entrer dans le feu et en ressortir plus forte. Elle persévère. Elle persévère. Le premier feu définit la forme. Toujours dans le livre « L'argile et les glaçures pour le potier » à la page 13, on peut lire « L'argile, jusqu'à ce qu'elle soit cuite et rendue durable, est un matériau de peu ou pas de valeur pratique. » Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Ce n'est qu'en Christ que nous trouverons notre sécurité et notre raison d'être. Et l'Esprit de Dieu rend cela possible. Tant que nous n'avons pas affronté notre première épreuve difficile, nous ne comprenons pas encore pleinement ce dont nous sommes faits et ce que Dieu est capable de faire à travers nous. Nous apprenons à mieux connaître Dieu à travers nos épreuves. J'ai découvert que parfois, lorsque Dieu nous montre un peu de ce qui est répugnant dans notre vie, et que nous le comparons aux qualités et aux attributs qu'il possède, la dichotomie ne pourra être plus grande. Et cela nous pousse à dire, « Je veux être comme toi. Je veux avoir tes qualités. » Car nous devons savoir ce que nous ne sommes pas pour comprendre ce que nous voulons vraiment être. C'est ce qui se passe dans la relation que nous avons, comme l'argile avec le maître potier. À mesure que nous grandissons en caractère, nous devenons de plus en plus utiles à Dieu, utiles pour accomplir son œuvre dès maintenant. Et nous avons tous une tâche à accomplir, nous sommes tous des ambassadeurs du Christ, nous sommes tous là pour donner l'exemple. Parfois notre exemple est fort, parfois il l'est moins. Et c'est, je suppose, un peu la nature même de la vie. Mais à mesure que nous grandissons en caractère, nous pouvons devenir de plus en plus utiles dans cette œuvre. Et nous pouvons nous approcher de plus en plus de la capacité d'accomplir le grand dessein qu'il a pour chacun de nous dans son royaume. Et c'est ce sur quoi nous gardons les yeux fixés, essayer de voir clairement ce que Dieu fait. Le livre poursuit à la page 13. Par une heureuse coïncidence, l'argile, qui est si malléable et facile à modeler, devient, lorsqu'elle est cuite à haute température, une substance dure et permanente. C'est ce que Dieu veut que nous soyons, une substance durcie et permanente. Lorsque l'argile est cuite dans un four, des changements chimiques se produisent, et ces changements, entre autres, transforment l'argile en un matériau céramique. Pas à pas, Dieu transforme nos cœurs et nos esprits à travers les épreuves que nous traversons. Nous ne devons pas nous endurcir de façon permanente avant que Dieu ait fini de nous cuire. avant d'avoir traversé toutes les épreuves ardentes. Chacune d'entre elles. Chacune d'entre elles. Ce n'est qu'alors que nous serons prêts à être établis de façon permanente pour accomplir le dessein que Dieu a pour nous. 1 Pierre chapitre 4, s'il vous plaît. 1 Pierre 4, versets 12 à 15. 1 Pierre 4, verset 12. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. » C'est ce que Dieu veut éliminer de nos vies, le péché qui empeste. Il veut que nous devenions une meilleure argile. Une argile convenable qui peut réellement être transformée, convertie en un vase utile. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, vous savez, vous faites simplement ce que vous devez faire, la parole de Dieu vous dit de le faire et vous essayez de le faire, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, l'Église de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? La bonne nouvelle du royaume à venir, le caractère que nous devons avoir pour faire partie de ce royaume, de cette famille, verset 18 maintenant. Et si le juste se sauve avec peine, vous savez, avec beaucoup d'efforts ou de difficultés, ce n'est pas la voie facile, vous devez lutter contre des vents contraires, il y a encore des choses à régler, et il faudra relever de nombreux défis pour pouvoir faire le tri dans tout cela. Et le verset 18 continue. Que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Un Créateur fidèle nous aidera à traverser ces épreuves. Il a commencé une bonne œuvre, et il ne s'arrêtera pas tant que nous n'aurons pas atteint notre but, tant que nous n'abandonnerons pas. Voyons ce que dit 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. 1 Pierre 3, verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Et tout comme les femmes doivent être plus attentives à leur qualité de leur caractère et à l'état de leur cœur qu'aux choses extérieures et matérielles, nous devons tous faire de même spirituellement. Nous faisons partie de l'épouse du Christ. Reportons-nous à Apocalypse 19, verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ainsi, toute cette parure que Dieu continue à nous ajouter, les épreuves que nous devons traverser, ajoutent ces qualités justes. Ainsi, les feux supplémentaires ajoutent de la forme. En ce qui concerne la poterie physique, ces formes supplémentaires peuvent inclure des décorations telles que des anses, des supports, des rebords, des bases et d'autres éléments décoratifs. Dans un sens spirituel, nos épreuves ardentes ajoutent à notre caractère des attributs riches et merveilleux à l'image du Christ. Le processus de glaçage vise à ajouter de la beauté, de la couleur et une protection, représentant la justice de Dieu qui nous est ajoutée. On pourrait le comparer au Christ qui vit en nous, nous protégeant, nous couvrant et nous embellissant par son caractère, son dessein. La recuisson d'une pièce de poterie est une étape standard du processus. Comme l'a dit Pierre, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Toujours dans le livre « L'argile et les glaçures pour le potier », cette fois à la page 249, Il ajoute, « L'un des objectifs de la recuisson peut être de réaliser le plan ou l'intention initiale pour la glaçure, ce qui peut être accompli en ajoutant plus de glaçure sur les pièces fines, en comblant les trous ou les cloques, en ajoutant plus de glaçure aux endroits qui ont coulé, etc. » Et c'est précisément ce que Dieu fait avec nous, frères et sœurs. C'est ce qu'il fait avec nous. Il nous recuit dans des épreuves pour éliminer nos imperfections. Dieu n'a pas abandonné son plan et son intention originelle pour nos vies, mais il veut que nous atteignions notre état de perfection et d'épanouissement le plus élevé. Cela s'accomplit à travers des épreuves ardentes. La cuisson finale ajoute les détails les plus complexes et la beauté, que ce soit en ajoutant de l'or, de l'argent, des motifs ou de la peinture. 2 Pierre 1 décrit l'ajout de certaines qualités à notre caractère, mais plutôt que d'être une méthode que nous mettons nous-mêmes en œuvre, c'est par notre abandon et notre confiance en Dieu que nous permettons à Dieu de nous faire entrer dans des épreuves ardentes et d'en sortir. Et il peut sembler que ces épreuves se succèdent sans discontinuer. 1 Corinthiens 10, verset 13, nous dit que Dieu nous donnera le moyen d'y échapper. Et bien sûr, ce moyen d'échapper sera en harmonie avec sa voix et sa volonté, et nous devons résister à l'envie de créer notre propre échappatoire. Cela reviendrait à devenir le potier, à devenir créatif, et cela ne fonctionnera jamais. Dieu sait ce que nous pouvons supporter. Dans le livre de Job, Job 5, verset 17, Job 5, verset 17, il est écrit, Job 5, verset 17, « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Nous lisons cela dans Hébreux 12, verset 5, « Ne méprisez pas le châtiment du Seigneur. » Hébreux 12, verset 5. Nous devons être formés par ce genre de correction. Et le verset 18 de Job 5 nous dit, « Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. » Il est le maître potier. Grâce à ses mains, nous pouvons être rendus complets. Nous comprenons que Job a été battu et humilié pour l'aider à prendre conscience de sa propre justice. De même, nous devons traverser des épreuves difficiles pour nous rendre humbles. Dieu exprime son amour dans les moments de correction. Si nous savons reconnaître sa miséricorde dans ses actions, sa miséricorde dans ses actions envers nous. Frères et sœurs, nous avons de l'espoir. Dieu, avec ses mains douces et aimantes, façonne et modèle notre caractère à travers les épreuves afin de pouvoir nous accueillir dans sa famille. C'est son bon plaisir de nous donner un royaume, comme nous le lisons dans Luc 12, verset 32. Luc 12, verset 32. Maintenant, regardons 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 15. Alors, persévérerons-nous? La course nous épuise-t-elle? Devons-nous prier notre Père de nous donner le coup de pouce dont nous avons besoin afin que, par le Saint-Esprit de Dieu, nous ayons l'énergie de la foi pour aller de l'avant et faire ce qu'il veut que nous fassions. 1 Corinthiens 15, versets 47 à 49. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Tel est le processus. Telle est la transformation. Cela nous fait passer de quelque chose qui a très peu de valeur à quelque chose qui sera finalement beau, durable, et qui, avec un temps que nous pouvons à peine imaginer, nous permettra d'atteindre la vie éternelle. Est-ce que cela en vaut la peine? Je crois que oui. Dans le mystère des siècles, M. Armstrong écrit « Dieu est le maître potier qui façonne, modèle et forme notre caractère. Si nous répondons à son appel et nous laissons attirer vers lui, si nous le voulons, il insuffle en nous son caractère spirituel, saint, juste et parfait. » Frères et sœurs, Dieu se reproduit en vous et en moi. Nous devons être disposés à endurer le processus que Dieu utilise pour éliminer les impuretés qui risquent de nous empêcher de devenir les vases qu'il veut que nous soyons. Nous devons être l'argile, et nous devons persévérer, et nous avons besoin d'endurance. Mais Dieu se soucie également de la manière dont nous faisons preuve d'endurance, avec une joie et une espérance sincères en exprimant notre gratitude pour le don d'être l'argile qu'il a choisi. En conclusion, rappelons-nous ces trois qualités de l'argile et le processus qu'elle subit pour devenir une pièce finie, prête à servir le but ultime du maître potier. Qualité numéro 1, l'argile est malléable, elle écoute. Deuxième qualité, l'argile résiste à la pression, elle se maintient. Troisième qualité, l'argile peut entrer dans le feu et en ressortir plus forte, elle persévère. Frères et sœurs, soyons comme l'argile qui écoute, mûre, réceptive et malléable, façonnée en vase d'honneur propre à l'usage du maître. Dernière écriture, 2 Timothée, chapitre 2, s'il vous plaît. 2 Timothée 2, verset 21. 2 Timothée 2, verset 21 nous dit, « Si donc quelqu'un se conserve pur, vous savez les choses de valeur limitée dont parle Paul. » Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous savez, les actes justes des saints, c'est ce que Dieu veut que nous produisions. Et nous ne pouvons le faire que par la présence de l'Esprit de Dieu et de Christ vivant en nous. Frères et sœurs, souvenons-nous de ce que signifie être de l'argile.